Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Galère 88.4. Donc nous sommes à la DAR et dans le cadre d'un événement qui dure tout le week-end et qui fait partie d'une action autour de la campagne féministe pour battre l'extrême droite. Je vais donc vous donner un peu de contexte. À la suite de la journée internationale de la lutte contre les violences faites aux femmes et aux minorités de genre, la coordination féministe a lancé cette campagne « Féministe pour battre l'extrême droite » avec plusieurs mots d'ordre. Hausse des salaires, services publics partout, libre disposition de nos corps, décolonisation partout. Vous pouvez retrouver l'intégralité de l'appel de cette campagne sur la coordination féministe ou sur le Insta de Marseille 8 mars. Sur Marseille, plusieurs collectifs se sont constitués en interorga pour répondre à cette campagne. Plusieurs actions ont été mises en place et d'autres sont prévues pour animer cette campagne et tenter d'y répondre. Je me présente, donc moi c'est Phoenix et je fais partie du collectif Femmes et Alliés contre l'armement. Notre collectif a décidé de participer à cette campagne car lutter contre l'extrême droite, c'est lutter contre un projet mortifère. Aussi, nous avons besoin d'envisager une convergence plus grande et plus engageante. Notre présence dans cet interroga est aussi pour que les enjeux anti-impérialistes, contre l'armement des pays génocidaires et antiracistes ne soient plus à la périphérie des enjeux féministes. Donc, je vais donner la parole à Yama.
Du coup, aujourd'hui, on est à la DAR, donc vous pouvez nous écouter en direct de la DAR ou aussi sur la radio. Et donc, nous, Radio Galère, on a été contactés par la coordination pour venir proposer un temps d'échange. Voilà, moi personnellement je suis arrivée à une première réunion et je savais pas trop qui est-ce qu'on allait interroger et c'est vrai que j'ai été assez stupéfaite en fait de voir à quel point il y avait peu de personnes, enfin en fait pas du tout stupéfaite non, qu'il y avait peu de personnes racisées dans l'interorga mais ça m'a pas tant étonnée. Mais je me suis dit aujourd'hui on est quand même là pour parler de l'extrême droite et du coup ça me semble important en fait de donner la parole à des personnes racisées. Et on a eu cet éternel débat sur les questions de non-mixité et à qui s'adressait cette journée, à qui s'adressait aussi le plateau radio. Et je crois qu'on avait une position assez claire, en tout cas avec les personnes autour de la table, que c'était important pour nous de donner la voix à des personnes racisées, des hommes aussi racisés. Et du coup, on avait envie de se positionner vis-à-vis de ça et de parler pendant ce plateau radio des questions aussi internes à nos propres milieux militants. Et le racisme aussi qui est infusé au sein même de ces milieux-là et de se questionner là-dessus. Et du coup, on a un peu fait le choix des invités dans ce sens-là. Du coup, aujourd'hui, on reçoit plusieurs collectifs. On reçoit le collectif Binkadi avec Moussa et Ouma. On reçoit aussi le collectif Intifada avec Rachida. Il y a aussi Stop Arming Israel avec Kef. Et Phoenix qui représente aussi Femmes contre l'armement. Et donc, on va avoir plutôt des temps de discussion de comment on s'organise entre nous, c'est quoi les freins à notre organisation collective. Et on laissera aussi un temps de questions. Enfin, s'il y a des gens dans le public qui ont envie de réagir ou de poser des questions, ce sera bienvenu. Et puis nous, on pourra y répondre. Du coup, pour commencer, on va demander un peu au collectif de se présenter. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a envie de se lancer dans l'exercice. C'est aussi des personnes qui n'ont jamais fait de radio pour la plupart. Du coup, voilà, c'est impressionnant d'être là aujourd'hui. Il faut, ça compte aussi. Qui c'est qui a envie de...
Bonjour à tous et à toutes. Moi, c'est Ouma du collectif Binkadi, des jeunes exilés à Marseille. Le collectif a été créé le 31 juillet 2023 et le collectif a pour but de lutter pour ces droits qui sont un hébergement digne et un aller à l'école facile et aussi d'être reconnu comme des mineurs que nous sommes.
Et vous êtes combien dans le collectif aujourd'hui?
Nous sommes une cinquantaine de jeunes parce que chaque jour la DAP 13 ne fait que jeter les jeunes dehors et tant qu'ils les jeteront, le nombre continuera d'augmenter toujours. Donc on n'a pas de nombre exact. En tout cas, on ne fait qu'augmenter.
Super, merci. Est-ce que Kef, tu as envie de nous présenter ton collectif?
Du coup, le collectif Stop Arming Israel a été donc créé suite à une investigation de Rawlings par des comités d'organisation locaux et des médias. Et cette annonce a amorcé une dynamique locale sur le territoire marseillais avec la mise en place d'une manifestation pour dénoncer cette usine d'armement. Et en gros, cette campagne a été créée par des... Enfin, c'est un appel lancé par des syndicats palestiniens, une trentaine de syndicats palestiniens en octobre 2023. C'est un appel aux syndicats des secteurs concernés à notamment refuser de construire des armes destinées à Israël, refuser de transporter des armes vers Israël, adopter des motions donc en ce sens au sein des syndicats et donc agir contre les entreprises complices qui participent à la mise en œuvre du siège donc brutal et illégal d'Israël, en particulier si elles ont des contrats avec les institutions, votre institution. Et donc aussi faire pression sur les gouvernements pour qu'ils cessent tout commerce militaire avec Israël et donc dans le cas des États-Unis qu'ils cessent de le financer. Et en fait, c'est un appel urgent et donc on a interpellé les syndicats, notamment le 1er mai, pour visibiliser la demande des travailleurs et travailleuses palestiniennes. Et on a également réalisé des collages, tractages. Et donc notre objectif, c'est que tous les Marseillais et Marseillaises soient au courant qu'une entreprise à Marseille investit beaucoup en fait sur la mort des Palestiniens. Voilà.
Merci. Rachida.
Du coup, moi, je représente le collectif Intifada. C'est un collectif en mixité de race. Et notre volonté à nous, c'est surtout de créer en fait un espace aux personnes racisées pour qu'ils puissent militer sans avoir à appréhender ou à subir d'ailleurs le racisme que les Blancs ont l'habitude de faire subir à nous autres. Mais aussi de mettre en lumière des luttes et des actions qui sont un peu plus spontanées. Antiracisme et anticolonialisme, donc aussi radical qu'elle soit, enfin le plus radical possible de préférence, et évidemment à notre échelle, donc locale, on va dire.
Et Phoenix, est-ce que tu as envie de présenter Femmes contre l'armement ?
Donc je l'ai présenté rapidement, mais je peux revenir dessus. Donc le collectif Femmes et Alliés contre l'armement s'est constitué à la suite de l'appel. Féministe AG Paris banlieue qui revenait sur les un an d'actes génocidaires en Palestine et du coup on a constitué ce collectif aussi pour sortir en fait d'une campagne qui était trop restrictive Stop Arming Israel dans laquelle on fait également partie mais où on ne pouvait pas aussi dénoncer les formes d'impérialisme en dehors de celui d'Israël et également ce collectif a aussi pour objectif de converger avec les luttes féministes pour avoir une articulation beaucoup plus grande sur les rapports de domination et les rapports de force et les éléments liés à l'oppression et la violence. Voilà.
Super. Et moi, c'est Yama. En même temps, je suis à Radio Galère, mais je fais aussi partie d'un collectif qui s'appelle About Love, d'afro-féministes queer à Marseille. Et qui on se réunit un peu chaque mois pour aussi avoir un peu un lieu de ressourcement, je sais pas si ce mot existe, mais enfin, à Marseille. Et c'est aussi un collectif avec énormément d'artistes. Et du coup, on va bientôt proposer un festival aussi qui aura lieu au mois de mai, qui s'appelle Afro Mars à Marseille. Et voilà, il y a aussi une personne qui tient un groupe Instagram, Lily, qui s'appelle Afrofemme Marseille et qui essaye de partager pas mal de luttes et de contenus militants sur ces questions-là. On va continuer avec une petite pause musicale où du coup Phoenix nous a proposé d'écouter Aya Doudou, qui est vraiment l'incarnation du féminisme, moi je pense, si on peut envoyer ça en technique.
Aime-moi doudou, montre-le-moi doudou. mimi, dis-le-moi doudou. Envole-moi doudou. Et ça c'est quel comportement doudou. Tu me mens beaucoup. Ça c'est quel comportement doudou. Tu me mens beaucoup. Là c'est clair, il me fait tomber. Je le vois, laisse tomber. C'est qu'il est frais, je vois flou. J'aime quand t'es là, c'est tout. Parlons français, sois clair. En vrai, j'ai passé l'âge de jouer. J'ai dit, toi et moi, on se sait. N'en fais pas trop, s'il te plaît. On perd déjà du temps à tester nos limites. La présence coûte cher, dis-moi quel est mon bénéfice. En moi, tu pourrais voir nos projets et l'avenir. Mais nous brûler les ailes, il faudrait éviter. Aime-moi, doudou. Aime-moi, doudou. Montre-le-moi, doudou. T'es mimi, dis-le-moi, doudou. Prouve-le-moi, doudou.
Là, on est en direct là ? Ah ouais. Et ben nous revoilà sur Radio Galère 88.4 en direct de la DAR pour la journée féministe contre l'extrême droite. Et on va commencer un peu des petits débats ou des questions. Ou, voilà. Amina, je te laisse prendre la suite.
Du coup, une des premières questions qu'on voulait poser à cette table, c'était... le rapport des collectifs à la lutte contre l'extrême droite. Donc, est-ce que la lutte contre l'extrême droite, c'est un objectif pour vous ? Oumad, tu veux ?
Bon, de base, nous, on ne connaît pas l'extrême droite. Voilà, c'est une fois arrivé en France ici qu'on a connu qu'il y a un groupe de personnes qui pensent qu'ils sont peut-être le centre du monde, qui se voient permis tout et... Nous luttons pour nos droits. Et on voit que dans ce cheminement, ils sont contre nos droits. Et je pense qu'en ce sens-là, nous luttons contre eux.
S'agissant de Stop Arming Israël, en fait, la lutte contre l'armement des États génocidaires fait partie donc des outils mobilisables qui participent à engager un véritable rapport de force contre les idées d'extrême droite, les idées autoritaristes et impériales de militarisation. Voilà.
Pour moi, c'est un peu une question qui est marrante, parce que, qu'on milite ou pas, l'extrême droite, il a un rapport avec nous. Donc, je pense que c'est aussi là la différence avec les Blancs et les personnes racisées. Parce que nous, en fait, on milite plus par survie que par nécessité. Enfin, genre, désolé, hein, mais moi, ça me fait chier de me taper la plaine et tout, et les blancs H24. Hein. Mais pourtant, c'est ce qu'on doit faire, parce que déjà, le milieu militant est comme ça. Et évidemment, on ne veut pas tomber dans des biais essentialistes quand on dit ça. Genre, c'est pas parce qu'on est concerné par ces attaques-là que notre lutte, elle est parfaite, ou que toutes les personnes racisées sont conscientes de ces questions-là. Par contre, donc comme je le disais, je pense que même si on choisit d'ignorer l'extrême droite, eux, ils vont pas nous oublier et ils parlent de nous tout le temps. Vraiment, c'est abusé. Du coup, c'est pour ça que nous, on décide de militer plutôt en faisant le zbeul le plus possible. Parce que du coup... cette violence-là qu'on subit à travers l'extrême droite. Moi, je pense que c'est important aussi de préciser que ça fait partie d'un système plus large. Une croyance, comme tu disais, en fait, Ouma, qu'il y a une supériorité blanche et que nous, on est inférieur par rapport à eux. Et voilà.
Moi, ça me parle ce que tu viens de dire. J'ai l'impression qu'on décentralise le problème, en fait, en disant aussi l'extrême droite. Alors que j'ai l'impression qu'en fait, au quotidien, on lutte contre l'antiracisme et on lutte contre l'impérialisme. Mais partout, ils se trouvent, et que ce soit dans les milieux qui soient proches de nous, où eux, c'est genre l'incarnation du mal extrême. Du coup, bien sûr qu'on lutte contre l'extrême droite parce qu'ils sont fiers d'être suprémacistes et tout ça. Mais des fois, moi, je me pose toujours la question de « Ah ouais, mais est-ce que c'est eux les pires ?» Sachant qu'en fait, bien sûr que c'est eux les pires, mais ce que je veux dire, c'est que si proches de nous, on subit tellement aussi genre de racisme et de discrimination qu'en fait, on lutte contre... Ouais, pour le... que les gens se décolonisent l'esprit, en fait, de manière générale. Et du coup, forcément, ça va rebondir sur l'extrême droite. Mais finalement, c'est... je ne sais pas si c'est eux vraiment qu'on vise dans nos luttes. Je pense que c'est beaucoup plus global que ça. Et que des fois, il y a quelque chose de facilitant d'avoir une personne qui incarne comme ça, genre le diable, et de dire « Ah, c'est eux les méchants ». Et du coup, on ne se regarde pas nous-mêmes, en fait. On ne regarde pas nos propres nombrils et nos propres biais sur lesquels il faut travailler. Et j'ai l'impression que eux justement, ils sont hyper soudés parce que ben, la haine de nous les soude et ils savent pourquoi ils sont là. Alors que nous, on est assez divisés parce que ben, justement, il n'y a pas ce travail de se regarder soi-même et de travailler chez soi d'abord sur ces questions-là de blanchité et de suprématie. Je ne sais pas si Phoenix, tu avais envie d'ajouter quelque chose sur cette lutte contre l'extrême droite. Comment vous aussi, au sein de ton collectif, cette question-là, elle est centrale ou pas?
Ça rejoint un peu ce qu'a dit Kef sur la question de l'organisation matérielle de l'extrême droite autour de volonté, de militarisation extrême et d'autoritarisme. Moi, je me dis que matériellement, en tant que personne concernée, personne racisée, l'extrême droite, c'est aussi nos institutions. Même si on n'est pas dans un gouvernement d'extrême droite, mais matériellement, on vit des formes d'exclusion, des formes de violence, comme tu le disais aussi, Ouma. C'est-à-dire, dans quelle mesure on ne peut pas appeler ça des logiques discriminantes, racistes, quand on n'a pas accès à un droit minimum. Donc, il y a des éléments conceptuels qui mettent une distinction idéologique entre... l'idéologie républicaine et l'idéologie d'extrême droite, mais en fait dans les faits ça se conclut très souvent de la même manière, en fait, et toujours par des formes d'exclusion, de violence et de déshumanisation.
En vrai, je pense que l'intérêt quand on parle de lutte contre l'extrême droite, c'est de questionner du coup des problématiques qui nous dérangent qui sont problématique. Mais je pense que les gens, ils ont du mal aussi à capter que les idées politiques de l'extrême droite les touchent aussi, même s'ils ont le label de gauche ou genre je suis pas raciste. Et c'est aussi ça le problème qu'on a dans le militantisme, c'est de dire ouais, je suis de gauche, donc je peux pas être raciste, ou genre mon racisme, il est plus acceptable que celui de l'extrême droite, alors que pas du tout. Et ils sont totalement touchés par cette propagande parce que déjà, ils font partie de ce système colonialiste, même si ça les fait chier de l'avouer. Et je pense qu'il y a aussi un peu ce truc-là de vouloir garder une sorte de paix bizarre au lieu d'essayer de comprendre les nuances qu'il y a dans ces oppressions, dans les luttes et même dans les mouvements de libération. Parce que genre, moi, je me souviens encore des critiques qu'on nous faisait par rapport aux luttes armées de la Palestine. Parce qu'on était plutôt dans un délire de soutien. Ou même en Syrie, en vrai. Même si on peut être critique là-dessus, moi, je pense que c'est un peu à ce moment-là qu'on a capté que bah ouais, le militantisme et la gauche en France est profondément raciste.
Ben justement, pour rebondir sur ce que tu dis, Rachida, on avait envie de questionner un peu, genre, c'était quoi vos expériences dans l'organisation entre collectifs militants, et où est-ce que se situaient un peu les dysfonctionnements, les empêchements ou les choses qui freinaient en fait justement la mise en place de nos actions. Ouais, Kef.
Donc en fait. La difficulté principale, c'est le travail de coordination qui manque cruellement. Et en fait, c'est aussi un manque d'espace pour se rencontrer, pour parler, en fait, communiquer. Un manque de ressources et donc de disponibilité. Mais aussi donc des désaccords politiques, stratégiques, genre indéniables. Et donc, par exemple, quand on peut faire l'expérience de collectifs qui sont porteurs de lutte contre l'oppression et les violences, et qui paradoxalement donc exercent quand même ces mêmes violences au sein même des collectifs. Et aussi, il y a un désaccord par rapport aux stratégies de convergence qui ne sont pas forcément des stratégies qui sont choisies par certains collectifs. Et en vérité, on peut parler d'une, d'une sorte de purisme de la cause et de vouloir lutter que pour la cause pour laquelle on a commencé à lutter et décider que donc, les formes d'oppression en fait l'important c'est quand même de décider que les formes d'oppression, toutes les formes d'oppression sont liées et pour que en fait ça forme ça, ça puisse faire sens à un plus grand nombre de gens et en fait c'est ça la convergence et donc et du coup le désaccord par rapport à ça c'est un peu triste, c'est un peu dommage, voilà.
Mais c'est-à-dire purisme de qu'on vous reproche vous d'être puriste et de mettre la cause palestinienne au centre de tout ou que les autres collectifs ne prennent pas
en... Non mais en général en fait il y a une sorte de oui on lutte que pour par exemple une certaine cause sans se soucier du fait que enfin tout est très on va dire interconnecté et donc c'est un manque de on va dire pas d'ouverture mais quand je dis purisme c'est vraiment s'intéresser qu'à soi-même donc à sans penser au fait que par exemple il y a beaucoup de gens qui ont des privilèges et qui peuvent pas et qui n'utilisent pas ces privilèges du coup pour aider d'autres formes de
lutte
de lutte en fait ouais. Voilà.
Merci.
Ouais. Perso, j'ai plus l'impression que le dysfonctionnement, c'est pas tant dans les orgas en fait en tant que tel, mais c'est plus le fait qu'on fait partie toujours de ce système, même si on est dans le milieu militant, et du coup les blancs ils vont toujours bénéficier de leurs privilèges et ils vont toujours être favorisés parce qu'ils sont blancs. Peu importe du coup le milieu, peu importe qu'on soit dans le milieu militant ou non. Et c'est un peu ce truc-là, un peu un sorte de flou, tout le monde ignore ça, fait comme si ça n'existait pas parce qu'on est des gauchos, des trucs comme ça. Et nous, on a particulièrement subi ça, en fait. Il y a une sorte de silenciation, bon, je ne suis pas sûre du mot, des personnes racisées, surtout quand elles abordent ces sujets-là, donc le racisme, le colonialisme, ces choses-là. Et il y a des... comment dire ? Ils vont utiliser des outils aussi qui sont eux-mêmes racistes. Par exemple, nous, la plupart d'entre nous, on est des Arabes. Donc quand on dénonce du racisme, généralement, ça nous est arrivé. On nous traite d'homophobes, ce genre de choses, ou de misogynes. Alors que ils n'ont pas de preuves pour appuyer ça, ou de faits véritables. C'est juste une imagination en fait, qui sort de leur tête. Genre, un homme arabe, en fait, il peut pas être autre chose qu'homophobe, il peut pas être autre chose que misogyne. Une femme arabe, pareil. Et c'est aussi un peu dans les procédés aussi qu'on met en œuvre cette silenciation. J'ai toujours pas le mot, hein, vraiment. Silenciation, voilà. Donc par exemple les cellules de crise, ces choses-là qu'on connaît. Donc on va parler de d'antiracisme, on va parler des violences que certains peuvent subir, mais on va ramener des blancs qui vont du coup gérer cette cellule de crise. Ils vont gérer toute la question antiracisme avec du coup les racisés qui sont concernés. Et c'est genre ridicule en fait parce que comment on peut justifier le fait qu'il y a des blancs qui vont enquêter sur la véracité des propos, des accusations apportées par les personnes racisées. Enfin, c'est trop ridicule, c'est full des violences et c'est hyper dur de déconstruire ça. Et ça demande vraiment beaucoup de travail. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a plein de divisions. Enfin, ça joue, quoi. Et voilà, quoi.
Et j'ai l'impression aussi qu'on en avait parlé de que Intifada, vous remettiez aussi beaucoup en question la question du lieu choisi. Par exemple, aujourd'hui, on est à la DAR. Et voilà, on est en plein centre-ville, c'est un lieu qui est fréquenté quand même majoritairement par des personnes blanches. Et je sais pas si tu veux un peu nous parler de ça aussi.
Je pense que aussi il faut prendre en compte que genre dans la plupart des milieux militants, il y a pas forcément des personnes qui viennent de ces villes. Dans le cas de Marseille, c'est hyper grave parce que c'est une ville qui est plutôt bourrée de racisés, j'allais dire raciste, mais bon, c'est pas rien. et du coup, genre ils vont par exemple imposer un peu ces lieux-là comme la DAR. C'est dans le centre-ville, du coup. À Marseille, dans le centre-ville, il y a des coins qui sont considérés comme des quartiers, comme le 3e. Donc, c'est pas un problème que ce soit dans le centre-ville. Enfin, ça peut l'être. Mais dans ce cas-là, c'est surtout parce que la Plaine, c'est un endroit où il y a que des néo-marseillais et que des blancs. Et en plus, une tranche de blancs, voilà. Hein, je suis désolée, mais enfin, tu vas pas avoir de racisés ici, quoi. Et c'est pour une bonne raison. C'est parce que c'est connoté. Enfin. C'est ce que je disais tout à l'heure, moi ça me fait vraiment chier de venir ici, quoi. Alors que, enfin, par exemple, on a des membres de notre collectif qui viennent des quartiers, du coup ils doivent prendre genre une heure de transport pour venir et se disputer avec des putains de blancs, enfin vas-y, flemme, quoi. Et quand on essaie d'aborder ces sujets-là, généralement les gens ils sont d'accord avec nous, mais ils font rien. Voilà, ils se disent ouais c'est vrai et c'est tout. Voilà, donc c'est des discussions qui sont vraiment très chiantes à avoir, mais voilà.
Binkadi, vous avez envie, Ouma?
Moi, je pense que l'un des problèmes, c'est au niveau de la coordination entre les collectifs. Voilà, parce que j'ai remarqué qu'entre les collectifs, bon, ce que j'ai remarqué, hein, je suis à Marseille il n'y a pas longtemps, mais ce que j'ai remarqué entre les collectifs, ça ne va pas trop. Chacun se base et se bat plutôt pour sa cause. En temps, on a une cause vraiment générale. C'est vrai qu'on peut se battre pour sa cause, mais quand la cause générale fait face, c'est de se donner la main et puis d'essayer de lutter ensemble. Voilà, moi en tout cas, je pense que l'un de nos gros problèmes, c'est au niveau de la coordination entre les collectifs. Et puis, j'ai remarqué aussi qu'il y a plus d'implications quand il s'agit d'envoyer les messages, quand il s'agit de se donner les textos pour dire il y a ça, il y a ça, mais physiquement, je vois qu'il y a moins d'implications. Donc, ce sont les remarques que j'ai faites.
Physiquement, c'est-à-dire quand vous appelez, quand par exemple vous donnez...
Voilà, par exemple, quand on donne un rendez-vous, peut-être il y a manifestation à tel endroit, il y a ça ici. Bon, on voit que le nombre de personnes qui s'est manifesté sur les réseaux, bon, on ne s'attend pas, on ne voit pas ça. On voit moins que ça. Donc quand c'est comme ça, souvent aussi, ça envoie un découragement. Mmh. Quand tu penses que sur les réseaux, tu es entendu au moins par 1000 personnes, et sur le terrain, tu vois que tu fais face à au moins 50, 100 personnes, bon, souvent ça... Ça décourage. Voilà.
Moussa, tu avais envie d'ajouter quelque chose? Non, ça marche.
Mais je suis assez d'accord avec ce que tu dis, Ouma. En tout cas, sur la difficulté de coordination et aussi sur la difficulté aussi, en tant que personne qui souhaitons nous organiser, à identifier les personnes ressources et les modalités d'engagement des personnes qui se disent engagés, en fait, concrètement. C'est-à-dire qu'on ne sait jamais sur qui on peut compter pour mobiliser un rapport de force. On a toujours des gens très sympathiques qui likent, qui partagent et tout ça. Mais concrètement, on ne sait pas dans quelle mesure les personnes sont prêtes à s'engager et les modalités de leur engagement. Ce qui fait que c'est toujours assez difficile d'essayer de réfléchir à un espèce de rapport de force quand on voit la grande disparité qu'il y a entre les réseaux sociaux ou dans les groupes et la réalité sur le terrain. Et concernant aussi le manque de coordination, moi je voulais aussi rajouter que je trouve aussi dans le cas de la coordination des luttes, la difficulté de coordination, c'est parce que peut-être inconsciemment ou implicitement, on continue à maintenir des espèces de hiérarchies dans les luttes, et ce qui, je trouve, est extrêmement dommageable à la question de l'articulation des luttes, la question de la convergence ou la question de la coordination, comme on disait. Et on a besoin de travailler un narratif commun pour l'articuler, mais pas que un narratif commun, c'est aussi comment on peut penser des modalités d'engagement. Puisque les narratifs, on en a quand même plusieurs, on a énormément d'éléments, je sais pas, conceptuels sur les formes d'oppression, les articulations, comment tu articules la question impériale, la question coloniale, le capitalisme et le féminisme. On a des éléments de langage qui sont hyper avancés sur la possibilité de le penser. Et en fait, dans la réalité, l'organisation est extrêmement sclérosée et très segmentée et très cloisonnée. Donc voilà, c'était juste pour...
Mais je pense que c'est aussi dû au sectarisme du milieu militant, parce que c'est vrai qu'on reste tous un peu dans cette bulle où on n'essaie pas d'attirer des personnes qui ne sont pas forcément attirées par le militantisme. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'il n'y a personne qui vienne à nos... Enfin, pas beaucoup de personnes qui viennent à nos événements. Et aussi, il faut se dire que, comme le milieu militant est blanc, quand on propose des choses anti-racisme ou anti-colonialisme, c'est plus compliqué de ramener des gens, parce que c'est pas des luttes qui les touchent particulièrement. Et c'est vrai que, du coup, il faudrait peut-être plus aller chercher dans des endroits où on peut trouver des gens qui nous ressemblent. Mais ça demande un taf de malade. Et c'est vrai que, ben... trois pauvres collectifs en non-mixité, ils ne peuvent pas se permettre de dire « ouais, je vais massifier telle ou telle communauté ou tel quartier ». Ça demande plus de coordination, et je pense qu'il y a aussi un peu ce truc-là de se dire que bah, y a des militants qui ne veulent pas forcément sortir de leur cercle parce qu'ils ont un peu peur du flop, ou genre ils ont un peu ce truc-là aussi de se dire la légitimité, est-ce que c'est possible pour nous en tant que blancs d'aller demander... que telle population s'intéresse aux luttes qu'ils proposent. Et c'est des questions qui sont un peu mises de côté, je pense, même si elles sont importantes, quoi.
Ouais, et puis, moi, un truc qui me questionne aussi, c'est comment, justement, les collectifs de personnes blanches se questionnent sur l'antiracisme. Et parfois, cette envie de toujours aller voir les personnes opprimées, oppressées, comme si nous, on ne s'organisait pas pour nous-mêmes. Enfin, il y a aussi, qu'est-ce qu'on étiquette comme militant ? Et en fait, il y a plein d'endroits où les gens s'auto-organisent, mais genre pour l'accès à l'école, pour la garde des enfants, pour même... Enfin, je vois le CHO dans le troisième qui a une caisse de solidarité pour les papiers, pour l'accès à l'hôpital, et que ça, ce n'est pas étiqueté comme, par exemple, militant. Et que du coup, dès que genre des collectifs antifa ou des collectifs qui veulent parler d'antiracisme, ils veulent aller chercher des personnes concernées, donner la voix aux personnes concernées. Et moi, je suis en mode, mais quand est-ce que vous allez vous prendre en charge? S'il y a du racisme, c'est parce qu'il y a des opprimés, il y a des oppresseurs. Et en fait, vous faites partie aussi des oppresseurs. Et du coup, l'importance de vraiment aller travailler sur d'où on parle, c'est quoi les questions de blanchité, c'est quoi le privilège blanc, c'est quoi la suprématie, enfin. Je veux dire, moi je suis née dans ce pays, et en fait c'est des choses qui sont intégrées depuis toujours là-dedans, et j'ai l'impression qu'il faut aller défricher un peu devant sa porte et travailler ces questions-là, en fait. Qu'en fait vous avez votre part à prendre, enfin votre côté de la pièce à travailler, et de pas et de arrêter ce truc de white savior, de ah ils ont besoin de nous pour qu'on leur donne la parole, ils ont besoin de nous pour s'organiser. Non, nous on a besoin que vous réfléchissiez à vous-même, et nous on va s'organiser à côté. Et je pense que ça c'est un truc, moi quand je suis arrivée dans cette, enfin quand j'ai appris par exemple le programme de la coordination, ça m'a fait plaisir de savoir que ce matin il y avait un atelier sur le féminisme blanc. Merci d'ailleurs à la Riposte d'avoir organisé ça. Mais par exemple, voilà, enfin, rien que de voir que dans le programme, enfin, moi, quand je suis arrivée à La Réunion, c'était la grève féministe, j'avoue que je me suis un peu dit en mode, mais attendez, on fait un événement lutte contre l'extrême droite. Pourquoi il y a un, enfin, pourquoi c'est ça, en tout cas, la première chose que vous avez pensé comme, tiens, on va faire un atelier autour de ça. Et voilà, et je pense que vraiment, là, c'est un peu l'heure, quoi, de se regarder soi-même. Et qu'une fois que ce travail-là, il sera fait, ce sera aussi plus facile de se coordonner et de s'organiser en se disant « Ah, ok, on a conscience que les gens ont fait un chemin. » Du coup, ben, ouais, ça donne aussi envie de faire front ensemble, quoi. Voilà.
Du coup, si vous voulez, on va passer à une autre question. Alors, aujourd'hui, on est plusieurs collectifs autour de la table et on ne s'est pas rencontrés forcément avant. Alors que nous luttons en gros contre l'antiracisme et pour le droit pour tous. Et comment vous l'expliquez ?
On ne l'explique pas.
Je pense qu'il y a un manque d'espace déjà. Un peu comme je disais tout à l'heure, par exemple, la DAR, c'est plutôt un espace... qui est pour les Blancs. Et aussi, nos lieux politiques, à nous, ils sont constamment détruits ou jugés. Par exemple, si on voit proposer des cafés ou des thés, ce qui est beaucoup fait dans les milieux arabes, d'ailleurs, je tiens à dire, ça ne va pas être considéré comme vraiment très sérieux. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas forcément de moyens de se rencontrer, de se connaître ou de construire une communauté. Et c'est un peu la base de la France, le fait de détruire tous ces trucs-là, de communautarisme. Et puis la blanchité aussi, elle est très 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 forte pour nous ostracier, nous ôter les outils qui pourraient nous permettre de nous rencontrer sans eux. Donc évidemment, on a des critiques à faire là-dessus, même au sujet de l'existence de notre non-mixité de race, par exemple. C'est des choses qu'on a beaucoup entendues. Il y a des gens qui trouvent ça pas trop ok de dire ça, que ce soit des concernés ou non d'ailleurs. On invalide aussi l'existence, notre existence aussi sous prétexte d'une haine du blanc. Comme si, franchement, je le dis, hein, oui, on a la haine du blanc, mais c'est pas un problème politiquement. Mais je pense que du coup, ouais, je pense pas qu'il faut penser que c'est un hasard ou genre la preuve d'une mauvaise organisation des groupes qui militent sans les blancs. C'est aussi parce qu'il n'y a pas d'espace pour nous et que... Il y a aussi très peu de personnes qui ne militent pas et qui nous ressemblent. C'est aussi parce que nous, on a conscience de notre identité politique, ce qui n'est pas forcément le cas des personnes blanches. Nous, on va être plutôt intéressés par les histoires et les expériences qui vont... c'est ce qui va forger nos identités, quoi. Au lieu de s'intéresser à notre condition matérielle, alors que les blancs, je pense qu'ils ont plus le temps de s'intéresser à cette condition matérielle-là. Vu qu'ils n'ont pas cette conscience d'identité politique. Je pense que la question de la race, elle est aussi énervante pour les militants ou les gens en général, en fait. Ouais.
Ouais, moi je pense qu'il y a aussi la question de l'épuisement. Enfin, en fait, on est peu. Et moi, je me rends compte qu'en allant dans différents collectifs, je vois tout le temps les mêmes têtes. Et que du coup, on jongle aussi un peu entre les projets, et que ce soit en même temps les projets d'action un peu directe ou les endroits aussi de ressources dont on a besoin genre pour se retrouver, ou de création aussi d'espaces artistiques ou d'espaces de prendre la parole. Et du coup, j'ai l'impression que quand on fait des coordinations... entre personnes racisées, en fait, on se retrouve avec nos amis avec qui on va boire le café le dimanche. Enfin, qu'il y a vraiment quelque chose d'être un nombre très, très réduit. Et que du coup, on a peut-être aussi besoin de travailler sur nous aussi, nous questionner. Enfin, moi, en tout cas, ça me questionne en tant que personne transfuge de classe qui a fait des études et de comment j'ai repris aussi ces codes militants d'utiliser des mots un peu compliqués, mais spécifiques qui veulent dire ça et d'être dans quelque chose qui n'est pas très accessible. Et du coup, peut-être de redéfinir aussi c'est quoi la lutte, c'est quoi les milieux militants. Et ouais, comme on fait avec Afrofem, en fait, peut-être se retrouver à 20h un soir et regarder un film et blablater et en fait prendre soin les uns des autres et savoir que tel est en galère de logement, que tel a besoin de ci, a besoin... Bah, en fait, peut-être que ça, c'est déjà la base, quoi. Et qu'en fait, du coup, on est nombreux. Mais c'est vrai que quand il s'agit d'aller faire du collage ou des manifestations et tout, on revoit pas ces gens, mais c'est une étape. Enfin, j'ai l'impression que on veut arriver aussi à un point... hyper haut directement, alors qu'on se connaît pas, et que la première étape, c'est peut-être ça, de faire lien. Comme on fait aujourd'hui, en fait, autour de ce plateau radio. Enfin, moi, en fait, je vous ai aussi rencontré là, il y a pas du tout longtemps. Enfin, même nous, on se connaissait pas, en fait, entre nous. Déjà, de savoir, OK, il y a quel collectif qui existe à Marseille, vous êtes basé où? Là, parler des empêchements, de se dire, ah ben, vous, en fait, vous avez besoin de force aussi qu'on vienne, qu'on fasse appel à nos réseaux quand vous faites des manifestations ou quoi, et de se dire aussi nos besoins et qu'on puisse, même si on n'est déjà que quatre pimpins dans des organisations différentes, mais s'appuyer les uns les autres, quoi.
Concernant pourquoi on ne s'est pas rencontrés avant et alors qu'on lutte pour les mêmes choses, je n'ai pas forcément de réponse ou d'hypothèse, à part peut-être revenir sur... du coup, le fait que les collectifs soient quand même assez cloisonnés alors qu'ils luttent sur les mêmes choses. Et aussi de dire que personnellement, moi j'ai l'impression actuellement d'être franchement un poulet sans tête en fait. Un poulet décapité qui est en train de courir de partout et il ne sait pas dans quel sens il va. Du coup, j'ai pas forcément d'hypothèse, mais en tout cas, ce que je peux dire personnellement, c'est que moi, je me sens dans une extrême urgence. Je me sens en danger, et en danger même psychique, de ce que ça veut dire tous les jours. Que ma vie, elle n'a pas beaucoup de valeur. Et ça, ça se voit dans énormément d'espaces. Voilà. Si vous voulez, on va passer par une autre question. Alors, comment s'organiser avec des personnes qui font violence ? Peut-être parler, justement, revenir sur les éléments de silenciation dont vous aviez évoqué.
C'est bien d'identifier les différentes formes de violence, de comprendre qu'à la base il y a quand même une violence systémique, et en fait aussi de savoir qu'il y a des formes de violence et de comprendre qu'il y a des formes de violence qui n'ont pour but que de maintenir la violence. Et donc j'ai aussi pu faire l'expérience personnellement. Expérience de violence qui a fait que j'étais obligée de me protéger et de sortir d'un collectif, par exemple. Mais aussi, ça permet de faire un tri, je trouve aussi, notamment dans les relations donc interpersonnelles qu'on a pu développer, et aussi donc de ça, ce tri là, c'est ça permet de se protéger. Et en fait, je pense que pour reprendre un concept que je trouve intéressant d'un économiste, mais donc qu'on peut appliquer à la sociologie politique, donc c'est le concept, enfin, de exit voice loyalty. Donc en gros, c'est qu'est-ce qu'on peut faire, quelle voie on peut emprunter. Quelle voie, en fait, le mécontentement et le désaccord, enfin, qu'est-ce qu'ils peuvent emprunter pour remédier donc efficacement au dysfonctionnement de nos mobilisations, de nos entreprises militantes. Et en fait, il y a trois différentes possibilités. Donc, c'est exit qui est la défection. Voice qui est donc la prise de parole, ou loyalty qui est donc continuer à être loyaux. Et donc ça, c'est les trois types de possibilités. Mais parfois, en fait, on n'a pas le choix que de partir, en fait. Et je trouve que c'est intéressant de se laisser la possibilité de pas... de ne pas être OK avec tout et de ne pas vouloir arranger des choses qui ne peuvent pas être arrangées pour des raisons très simples de sexisme, de racisme. Voilà.
Je pense qu'il ne faudrait pas forcément conseiller aux personnes racisées, ou en tout cas dire aux personnes racisées que le milieu militant, c'est un endroit safe. Parce que ça reste une société blanche, et du coup, comme toute société blanche, c'est très difficile de la critiquer, c'est très difficile de la bousculer. Donc oui, il faut s'armer d'un bouclier, parce que les violences, vous allez en avoir dans tous les cas. Et je pense que, enfin, en tout cas, nous, notre manière de militer qui permet du coup d'être protégé, tout ça, c'est la colère. C'est aussi ça qui nous permet de refuser toutes les violences qu'on subit. Je pense qu'aussi, il faut savoir anticiper et préparer l'empathie et la compréhension des Blancs. Parce que ils vont pas nous donner forcément d'empathie, même si ils sont sensibles à certaines des luttes qu'on essaie de porter. Ils vont pas forcément comprendre non plus. Et évidemment, ils ont pas les mêmes codes que nous. Nous, on n'a pas les mêmes codes que eux. Donc, c'est vrai que nous, on est forcés d'apprendre leurs codes, mais eux, pas forcément. Donc, je pense que c'est surtout ça qu'il faut prendre en compte, et pas forcément penser que cette lutte-là va être parfaite. Je pense que c'est plus, c'est plus à nous de nous adapter, étonnamment. Mais, ouais.
Ouais, je rebondis un peu sur ce que tu dis, que je crois que ce qui fait mal, c'est la surprise. C'est aussi le fait de se dire, ah tiens, je vais dans un endroit safe, genre on est tous d'accord. Et en fait, t'arrives et là, tu te fais cueillir. Et t'es un peu en mode, oh, waouh, ah ouais, j'avais oublié. Enfin, je m'attendais pas. Et c'est violent, en fait. Enfin, c'est... Et du coup, moi, j'ai l'impression que là, ben, moi, ça fait hyper longtemps que je m'organise plus avec des personnes blanches. Et ben, en fait, faire ce plateau radio, ça a été... ça faisait longtemps que je n'étais pas allée dans une réunion de, comme ça. Là. Enfin, voilà, bref. Et ce que ça m'a rappelé, c'est de me dire, ah, en fait, il ne faut pas aller seule. Parce que eh ben, la réunion où j'étais, en fait, on était trois. Et j'ai compris que c'est parce qu'on était trois qu'on se donnait la voix de se dire aussi, ah mais oui, ah mais en fait je suis pas toute seule à penser ça, ah mais en fait je croyais que c'était moi genre qui avait un problème et qui avait rien compris, mais les deux autres personnes qui sont là aujourd'hui, elles abondent dans mon sens, et du coup de se redonner de la force. Et du coup moi ça me dérange, enfin je me dis que c'est intéressant de travailler en mixité aussi avec des personnes blanches, mais que par contre il faut questionner le rapport au nombre, c'est-à-dire de pas se retrouver personne déjà minorisée dans la société, aussi minorisée dans le groupe qui organise, et qu'en fait il faut faire attention à ça et de se dire surtout selon le sujet. Donc par exemple, si on travaille sur la question de l'extrême droite, ok, c'est important que dans l'organisation la majorité des personnes, ce soit des personnes qui soient concernées directement par l'extrême droite, et réfléchir, bah oui, ok, il y a les personnes queer, elles sont concernées, les personnes sexisées, elles sont concernées, les personnes racisées, elles sont concernées. Mais en fait, genre là, par exemple, dans cette organisation-là, il y avait une seule personne racisée. Et moi, ça m'a semblé quand même un peu incroyable de me dire, ah ouais, mais en fait, ça marche pas. On peut pas penser ce sujet-là en recréant les mêmes rapports de domination dans la société, dans notre propre groupe. Et je crois que quand on est seul à porter des sujets, en fait, c'est difficile parce que tu... Même si ça fait des années que tu milites ou quoi, tu te retrouves à douter de toi-même et douter de tes idées. Et du coup, ouais, moi, c'est ça un peu qui m'a sur la question de s'organiser avec des personnes qui nous font violence. Je pense que c'est vraiment le fait d'y aller à plusieurs, quoi, et de pas se retrouver seule avec ça. Et aussi, je me dis qu'il faut quand même, ouais, je sais pas, penser une manière une médiation, où je j'ai pas forcément de solution. Mais un espace où en fait on peut reparler des choses et on fait pas comme si de rien n'était et on continue. Voilà. Moi, ce qui m'a choqué aussi là en m'organisant, c'est en entendant un peu toutes les histoires passées. Enfin, moi, j'avoue, ça fait pas très longtemps que je suis à Marseille. Et là, il y a eu comme un déballage de tous les actes aussi, en vrai, racistes qu'il y a pu avoir dans les milieux militants à Marseille. Je me suis dit, waouh, mais en fait, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et j'ai trouvé ça dommage que ce soit pas explicité, clair, enfin aussi qu'on puisse dire, ok, il s'est passé tout ça, ben peut-être c'est pas grave, genre au moins c'est nommé, tels ils sont excusés, tels non, enfin parce que ben en vrai ça donne pas du tout envie de rejoindre le milieu militant aussi là, de, on sait même pas, ça s'est passé, est-ce qu'on est revenu dessus, est-ce qu'il y a eu des excuses ou non. Moi, j'ai plus rien compris, je me suis juste dit en mode, oh là là, j'ai l'impression que plus on gratte, plus c'est la merde, je vais repartir, quoi. Et du coup, voilà, aussi peut-être d'être honnête, moi je me dis, sur le passif, et de dire, voilà, il s'est passé ça, et du coup, qu'en est-il, quoi? Si ça n'a pas été réglé, on en reparle. Si ça a été réglé, bon, bah au moins c'est clair, mais tout le monde le sait, quoi. Voilà, moi je me dis ça aussi.
Ouais, et du coup, quand même, il faut appuyer sur le fait que subir de la violence dans ces collectifs, ou par exemple. Genre, on arrive dans une ville ou on arrive dans un pays et on se dit « Ok, je vais rejoindre ce collectif parce que il lutte pour les mêmes causes que je voudrais défendre. » Mais en même temps, ça crée du... Enfin, justement, ça, avoir tellement d'espoir en quelque chose qui, qu'on pense être safe, qu'on pense pour, enfin, être une micro-société en fait où on peut parler, on peut avoir confiance, on peut nouer des relations. Enfin, parce que c'est quand même aussi des relations interpersonnelles, des relations entre individus. C'est pas seulement. Enfin, on a des sentiments, des émotions. Et du coup, ouais, ça crée beaucoup de découragement. Et donc, ça peut aussi créer la défection. Et en fait, on se dit que c'est dommage, quoi. Et c'est triste. Et, mais du coup, ouais, ça permet aussi de faire un tri. Et quand on a de l'aide autour de soi, c'est important. Mais quand on n'a pas d'aide, du coup, je comprends pourquoi il y a aussi beaucoup de gens qui quittent sans revenir. Et donc, c'est voilà, c'est tout.
Est-ce que, Binkadi, vous, depuis que vous existez, vous avez eu des difficultés de s'organiser avec les autres ou que vous voulez partager ? Ou pas ?
Avec les autres collectifs ?
Ouais, avec les autres collectifs, avec les institutions.
Oui, oui. Et bon, l'un des problèmes, c'est que quand on lance une manifestation, bon, plus précisément, pour l'école, parce que les jeunes sont à la rue, ils vont pas à l'école, c'est un peu difficile. Alors pourtant, il y a d'autres qui quittent dans des pays anglophones. Et ici, nous sommes en France, il faut parler le français. Voilà, il faut aller à l'école pour parler le français, pour s'intégrer, pour tout faire. Là-bas, c'est d'aller à l'école. Voilà, donc on nous refuse cet accès-là. Donc on essaie aussi de lutter pour ça. Et quand on lance souvent des manifestations pour ça, il y a d'autres collectifs qui nous envoient les listes de leurs jeunes. Mais quand il s'agit d'aller manifester, on ne les voit pas. C'est comme ce que je l'ai dit auparavant. Il y a plus de mobilisation sur les réseaux que physiquement. Voilà. Donc quand c'est comme ça, ça fatigue beaucoup. Nous-mêmes, et puis ce qui est bizarre, c'est que quand on fait ces manifestations et quand il y a les résultats, on a nous-mêmes, nous, les jeunes qui sont dans le collectif sont moins pris que ceux même qui ne viennent pas. Et donc quand c'est comme ça, ça fatigue et puis ça décourage aussi. Quand tu vois que tu luttes et puis les mérites sont attribués à autre personne, c'est pas encourageant. Voilà. Et puis même si ça, c'est chose, parce que nous ne luttons pas seulement que pour le collectif Benkani, nous luttons pour tous les jeunes qui sont exilés ici à Marseille. Mais ça va être plus intéressant que quand ils viennent s'associer aussi à nous et quand on lutte et puis on voit qu'il y a des résultats. Quand c'est comme ça, c'est intéressant. Mais quand tu vois que tu luttes, on dit un chef, c'est celui quand il tourne et puis il voit il y a le monde derrière. Mais quand tu tournes, il n'y a rien, tu n'es rien. Voilà, donc on a eu beaucoup ce problème-là et c'est pas à ce niveau-là seulement, même pour le tribunal, parce que quand on nous refuse à la DAP 13, on peut faire un recours pour contester la décision de la DAP 13 devant le juge ou la juge. Bon, récemment, c'est devenu un peu compliqué parce qu'il n'y a qu'une seule juge maintenant qui se charge de toutes les affaires des mineurs. Et vraiment, ce n'est pas facile. Avant, avec nos papiers d'identité, c'était un peu plus facile d'être accepté. Quand ton avocat peut te dire de faire un passeport et puis demander un rendez-vous et puis vous allez. Mais maintenant, même avec ça, c'est devenu compliqué. Et quand c'est comme ça, on a vu que, bon, de la manière que ça va, ça ne nous arrange pas. On a essayé de faire aussi un appel à tout. Parce qu'à Marseille, il y a plus de 250 jeunes qui sont dans la même situation que nous. Voilà, ils sont dans d'autres collectifs, ils sont dans d'autres associations. On a vu qu'ensemble, si on se donne la main, ça peut être un peu plus facile. Mais quand on lance l'appel, bon, on ne voit personne. On ne voit que le collectif Benkadi qui est là. Et même quand d'autres jeunes viennent, quand on est à la manif, ils sont en bas. Quand nous sommes en haut, ils sont en bas. Quand nous sommes en bas, ils sont en haut. Bon, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi ils font ça. Voilà, parce que quand je suis arrivé à Marseille ici, quand on m'a refusé, j'étais dans la rue, il n'y avait personne. Alors, il y a des bénévoles qui m'ont aidé après. On était dans un squat et le squat est expulsé. Et sans nous donner une solution. Et c'est par la suite qu'on a essayé de lutter. Et quand on a lutté, on a vu que ça a réussi. On a eu des hébergements, même si c'est dans le 115, mais au moins on ne doit pas dehors. Alors on a vu que, bon, si ça peut marcher pour l'hébergement, pourquoi pas pour l'école? Ou bien pourquoi pas pour la juge? Mais c'est de ne pas chose de ne pas donner son nom et puis maintenant quand on va vouloir maintenant aller manifester parce que quand on est en masse ça donne plus de résultats que quand il y a deux personnes. Alors je pense que c'est l'un des gros problèmes aussi. Il y a d'autres qui vont donner les noms, surtout pour l'école même. Ils vont donner les noms, mais quand on va dire, bon, tel jour, il y a manifestation, on ne va pas les voir. Nous, mais on a eu à faire des échanges vraiment avec des collègues. On a dit, à partir de maintenant, si on ne voit pas ces jeunes-là, on ne va plus lutter pour eux. Moi, comme ça, moi, je suis à l'école. Mais quand il y a les manifestations, je quitte à l'école, je prends le métro, le bus, tout, je fais direct. Parce que à mon tour, il y a des gens qui m'ont aidé. Donc, c'est aussi... C'est d'être reconnaissant aussi envers ces personnes, en aidant d'autres personnes aussi. Ah, mais quand ils voient que j'aide des gens qui ne veulent pas s'aider, vraiment, ça décourage.
Merci. On va... Oui, vas-y, Moussa.
Bon, moi, je me nomme Moussa. Je viens de la Côte d'Ivoire. Ce que j'aimerais ajouter dessus, seulement le problème là ne vient pas des jeunes seulement. Où les jeunes sont hébergés chez les bénévoles là. Parce que souvent, c'est eux qui disent que non, ah, les jeunes, ils sont courants bien s'il y a une manifestation, ils sont courants qu'il y a une manifestation. C'est eux qui doivent dire aux jeunes, ah, sortez, vous allez manifester avec vos camarades pour que vous obteniez une place. Maintenant, du coup, les jeunes dort chez elles là-bas, elles ne disent rien. Souvent, elles disent aux jeunes qu'ils ne sortent pas. Maintenant, quand il y a de bons résultats maintenant, c'est elles qui sont premiers à envoyer le nom des jeunes. Ça veut dire que c'est eux-mêmes qui sont au centre du problème. C'est ce que moi, j'aimerais ajouter.
Merci. On va faire une petite pause musicale. Rachida, est-ce que tu veux présenter le son que tu nous as proposé?
C'est un son du... je sais pas si je peux le dire en fait.
Eh ben, let's go, le son secret. Waouh!
Non, on va pas faire du playback. Donc, bienvenue, on reprend le plateau radio 88.4. Du coup, on était en train d'échanger sur du coup, comment s'organiser avec les. Voilà, avec des personnes qui font violence. Et on a fait état aussi des formes de difficultés à organiser convenablement une action pour qu'elle puisse y répondre. Donc, tu partageais le fait qu'il y avait très, très peu de monde dans le cadre d'appels à manifestation. Et effectivement, pour moi, je trouve que c'est aussi une forme de violence et c'est aussi une information qu'on peut donner aussi aux alliés, à savoir, bah, du coup, quelles sont les attentes qu'on a des alliés qui se disent engagés dans ces luttes-là. Du coup, une des formes d'alliance, c'est aussi d'identifier les priorités des luttes des personnes concernées, de voir comment on peut les renforcer. Je pense que c'est un des éléments qui me paraît important. Et moi aussi, je voulais partager peut-être une expérience qui me fait dire que c'est aussi des formes de violence. C'est alors pas forcément les stratégies de silenciation des personnes concernées, donc qu'on a déjà évoqué et dont aussi j'ai eu l'expérience malheureusement, mais aussi les difficultés des personnes blanches aussi à échanger sur une situation. C'est-à-dire que des fois, dans le cadre de réunions, j'ai du mal à savoir, à comprendre ou à entendre des désaccords sur des échanges qu'on a, sur des stratégies ou sur des définitions de certains termes. En tout cas, c'est difficile d'avoir accès à ce que les gens pensent. Et je ne sais pas, du coup, si c'est de la culture militante, parce que ça ne fait pas longtemps que je m'organise, ou si c'est un truc qui est, en fait, plutôt de l'ordre d'une culture sociale ou raciale qui fait que moi, je n'ai pas accès. Donc, c'est vrai que pour moi, ça me met grave en insécurité quand je suis là en train d'essayer de m'organiser avec des personnes et de ne pas entendre le retour, le feedback, qu'il soit positif, négatif, convergent, divergent, on s'en fout. Mais en tout cas, de ne pas avoir de feedback et d'avoir des espèces de retenues, c'est des mises à distance comme ça qui déséquilibrent un peu la réunion, puisqu'en fait, les personnes qui se mettent en distance, c'est toujours un peu genre hauteur. Et en même temps, je ne sais pas à quoi l'attribuer. Du coup, je ne sais pas si c'est culture militante qui fait ça, si c'est classe sociale, classe raciale, donc voilà.
Ça marche, ok. Ben en fait là on parle des codes, c'est ça, d'organisation et c'est vrai que on en avait parlé en fait. On a l'impression que quand on commence dans le militantisme ou l'activisme, si on peut parler comme ça, il y a des formes encore. J'utilise le mot de purisme militant en fait. Et donc si on n'a pas les codes, déjà les codes c'est quoi comme terme en fait? En fait, on peut rapidement être disqualifié et, comme tu dis, mis à l'écart. Et alors qu'en fait, c'est pas parce qu'on n'a pas l'expertise de ce qui est considéré comme, on pourrait dire un conservatisme presque militant, que on n'est pas concerné par les luttes et par les collectifs auxquels on veut s'ajouter en fait. Et ça crée des formes donc d'empêchement encore c'est vraiment dommage et donc aussi quand on essaie de proposer d'autres formes de mobilisation ou d'autres formes de manière de lutter, on est vite pas pris au sérieux ou moins considéré parce que tu sais pas ou bien t'as pas l'habitude, donc nous on va te montrer, et puis c'est une forme de paternalisme en fait voilà.
Hyper d'accord avec ce que t'as dit, vraiment, genre, parce que le truc de pureté militante à la con là, putain, c'est abusé, genre c'est vraiment un vrai truc qui a dans les milieux militants, et genre c'est vraiment des codes bourgeois, faut le dire. Même dans la façon de parler, le fait de parler tout le temps en diminutif, CR, AG, ce genre de trucs. Moi, au début, je comprenais rien. Vraiment, je ne comprenais rien. J'ai tapé sur Internet et tout pour savoir. Parce que j'avais honte de demander, genre. mais oui, c'est vraiment des codes bourgeois. Et quand t'as pas forcément, genre, l'habitude d'être dans ces milieux-là, c'est, genre, un peu horrible en vrai, genre. Parce que faut que tu t'adaptes et il faut que tu lisses même la façon dont tu parles, parce que sinon tu peux être considéré comme violent. Moi perso, je sais pas si j'ai réussi à faire ça. Je pense qu'il y a des moments où j'arrive à bien parler en mode bourgeois, mais je sais que genre la plupart du temps on me catégorise comme violente dans ma façon de parler, parce que c'est vrai que si t'as pas une façon de parler qui est hyper intellectuelle, hyper académique, les gens ils vont pas forcément t'écouter, ils vont pas forcément trouver ce que tu dis comme intéressant. Et genre du coup, moi je le lis tarpin ça avec la pureté militante et ce truc là de se dire que si t'es pas intellectuel et t'as pas étudié Marx ou genre Bourdieu ou genre un autre auteur connard qui est sûrement d'ailleurs raciste, hein, faut le dire, en gros tu sais pas de quoi tu parles et ce que tu dis c'est un peu de la merde, ton expérience c'est pas genre suffisant pour parler de racisme, pour parler de colonialisme, ce genre de choses. Et moi c'est un truc qui me fait trop rire, parce que genre en même temps ils vont dire que la manière dont tu parles est violente, donc c'est pas ok, et en même temps genre ils vont être en mode clap clap les Algériens, clap clap les Vietnamiens, c'est trop bien ce que vous avez fait, genre en mode eux quand ils étaient en mode mouvement de libération ils serraient la main à leurs colons. Non mais on est chez les fous quoi. Enfin bref, je pense que c'est ouais, les codes bourgeois quoi.
Je suis assez d'accord, il y a un mélange entre codes bourgeois, culture, les questions raciales. En tout cas, moi aussi, ça m'a... Franchement, j'ai exactement les mêmes expériences. Genre, excusez-moi, c'est quoi une AG, c'est quoi une interorga? Du coup, j'ai dû m'adapter à ces éléments de langage qui sont... Ça fait un peu éléments de langage professionnel, en fait. Hein. Et puis, aussi, ce qui me paraît aussi important à partager, c'est une espèce de grand fossé, parce que moi je m'organise il n'y a pas si longtemps que ça, donc je suis un peu nouvelle, mais un grand fossé entre les éléments de langage et la pratique. Pour moi, c'est un peu ça qui m'a fait déchanter, je dois le dire. Par exemple, là on est dans le cadre d'une campagne féministe contre l'extrême droite, et du coup on va dire que les concepts féministes sont quand même à l'avant-garde de la compréhension ou en tout cas la demande très claire de l'abolition de toute forme de domination. Donc c'est aussi le fait qu'on nomme et qu'on identifie les formes de domination, que certains concepts féministes utilisent l'outil de l'intersectionnalité. Donc il y a des éléments de langage, des éléments conceptuels qui sont très présents en fait dans le féminisme, et du coup il y a le côté réel. Et le côté réel n'est pas en adéquation avec la question conceptuelle. Donc, pour moi, travailler, en fait, c'est-à-dire me définir, ou pas, ça dépend des jours, parce que des fois j'en ai marre, mais me définir en tant que féministe, c'était aussi prendre acte des éléments conceptuels et des propositions, en fait, de lutte contre toute forme de domination, qui fait que j'ai signé pour, tu vois. Et à la fin, on se retrouve aussi avec des formes d'invisibilisation d'oppression dans la pratique, avec, je l'espère, aussi des espaces de régulation, des espaces aussi collectifs pour avancer communément. Mais je trouve que c'est grave difficile, en fait. Ouais, grave difficile de se retrouver à encore continuer à dire « je viens d'un féminisme intersectionnel » et de l'autre côté, en fait, dire qu'on va parler que du sexisme ou dire qu'on va parler que de ça. Donc, je trouve qu'il y a quand même une nécessité de rattraper, ou en tout cas d'avoir un certain équilibre entre et les éléments conceptuels qu'on utilise et, en fait, comment on s'organise. Et le deuxième élément, c'est que, voilà, je disais que je m'organisais depuis pas très longtemps. Et franchement, je vous jure, hein, mais quand je lis les appels et les communiqués, je fais « waouh, ça va être la révolution, mais il est trop bien cet appel !» Mais c'est magnifique, on va pouvoir s'organiser avec. Et en fait, il y a pour moi aussi un gros déséquilibre entre, du coup, à quoi on tente de répondre et où on se positionne et ce qu'on nous propose dans la culture militante. C'est-à-dire que quand je suis arrivée ici, en gros, quoi, quand j'ai décidé de m'organiser, en gros, c'est, ben, en fait, on fait des collages. On va faire des événements, donc de la pédagogie pour visibiliser tout ça. On va retenir un réseau social. On va faire des rassemblements et on va faire des manifestations. Comme si, du coup, c'était les seules possibilités d'organisation. En tout cas, c'est les seules dans le cadre de ce qu'on m'a transmis. Après, je ne dis pas qu'il n'y en a pas plein d'autres. Mais en tout cas, de ma petite expérience, c'est les seules qu'on m'a transmis en termes de possibilités. Et je me dis, mais en fait, je ne sais pas comment on va réussir à répondre à la campagne féministe pour battre l'extrême droite, si les seules propositions, c'est manifestations, événements. Et je ne sais pas comment on peut sortir en fait, des espèces d'automatismes de pratiques militantes en disant mais vraiment, 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 qu'est-ce qu'on pourrait faire pour battre l'extrême droite quoi, dans un moyen long terme quoi.
Merci pour... pour ton intervention que j'ai trouvé vraiment intéressante. Non mais je veux dire, elle fait écho à ce que je pense en fait. Et en fait, on en a parlé, mais pour s'organiser, l'important c'est aussi d'avoir de la rahma. C'est très important. Et en fait, aussi établir une confiance mutuelle, parce qu'en fait, on est des individus, on est... en fait... C'est important la considération, en fait, de se dire, on milite ensemble, mais en fait, on s'aime aussi. Enfin, je veux dire... Et en fait, militer ensemble, c'est donc créer des espaces qui sont... considère comme sécurisé et qu'on sécurise ensemble quotidiennement et en fait c'est important de prendre soin de nous et je pense qu'on met pas ça assez en avant et donc ça peut encore créer des bifurcations, ça peut encore créer genre du découragement et donc c'est important de s'aimer, de communiquer mais du coup et de réfléchir ensemble et on ne peut réfléchir que s'il y a un respect mutuel qui est mis en place. Voilà.
En vrai, je pense que ça, on peut grave le lier avec la manière dont les révolutionnaires y mettent au centre de leur lutte aussi la santé mentale. Ça, c'est quelque chose qui est pas trop dit en fait quand on parle de révolution, mais c'est un sujet qui est hyper important parce que du coup, t'es face à des violences quotidiennes et des violences qui sont systémiques. Et donc, ouais, c'est vrai que là, comment tu l'as dit, ça fait un peu bisounours. Mais en vrai de vrai, c'est genre au centre genre, de la lutte normalement. Surtout que ce que nous, on prône, c'est vraiment la radicalité, donc tout ce qui est radical, vous avez compris. Enfin, je pense que c'est deux choses qui vont totalement ensemble et il ne faut pas du tout les oublier parce que c'est vrai que les manifestations, c'est quand même important, même si on crache dessus la plupart du temps. Mais il y a des trucs à côté qui sont radicaux et qui demandent aussi ce genre de pratique-là de santé mentale, de genre discuter avec les gens, leur faire confiance, etc. Et bon, oui, c'est vrai que ce n'est pas quelque chose qu'on discute souvent. Donc peut-être faudrait avoir des espaces, ce genre de choses.
Mais complètement. En plus, bien sûr que c'est nécessaire, toutes les actions, collages, manifestations, je ne dis pas que ça ne sert à rien. C'était juste que c'est les perspectives qui s'offrent à nous, alors qu'on voit le climat délétère. Quoi. Moi, je me sens genre... Oh, mais en fait, on va tous crever, en fait, parce qu'on ne va pas s'en sortir avec les mêmes pratiques et une fascisation, un durcissement de l'État avec toujours les mêmes pratiques militantes. Il y a un espèce de... En fait, on ne répond pas aux enjeux sur lesquels on décide de s'organiser. Donc, je ne sais pas comment on pourrait envisager d'autres possibles.
Radicalité.
Ouais.
Faisait des trucs radicaux, les gars.
Franchement, la rahma, moi, je suis trop d'accord. Donc, rahma, c'est un terme en arabe. C'est la miséricorde. Et je trouve que moi, ce que j'ai pu voir, c'est des espèces de mise à distance et de froideur qui empêchent quand même... La rencontre et la possibilité d'avancer ensemble et de s'autoriser à faire des erreurs aussi, parce que du coup on n'a pas le droit à l'erreur quand on milite. Il y a tout ça, moi, que je rentre dans la rahma, c'est est-ce qu'on se considère assez pour se dire qu'on est des êtres humains, donc on est des êtres faillibles, donc on peut se tromper, mais on va essayer de s'organiser, on va essayer de s'améliorer, on va se donner de l'amour, on va se considérer. Franchement, on va se faire des cafés, on va mettre un peu de gâteau, on va manger tout ça, quoi, voilà, des trucs un peu genre que ça soit pas si quoi que la pratique militante soit pas si mise à distance, froide, quoi. Ça m'aide pas à être sécurisée dans un espace et du coup ça revient aussi au mode d'organisation et au code.
Dernière chose, je pense, juste c'est quand même culturel aussi.
Grave besoin
de prendre des cafés, nous, de prendre des thés et tout. Si, c'est important.
En fait, prenez les pratiques des Arabes, vous allez kiffer, les gars. Écoutez tout ce qui est Moyen-Orient, révolution là-bas, ils sont pas mal.
Merci. Du coup, on a bien parlé, il nous reste 10 petites minutes. Je pense que je ne sais pas si vous avez envie, en 2-3 mots, de dire c'est quoi vos attentes, l'attente que vous avez sur les alliés, enfin alliés ou personnes avec qui s'organiser. Est-ce qu'il y a des choses concrètes où on se dit « Ah, mais en fait, j'aimerais bien qu'ils prennent telle et telle et telle place ?» Voilà, on peut faire ça un peu rapidement et puis après on passera à l'agenda. Si vous avez des rendez-vous, des mobilisations qui arrivent, de pouvoir nous les partager aussi. On en profite, on est à la radio. Prochain rendez-vous de Binkadi, 1000 personnes.
On l'espère.
Inch'Allah.
Ciao. Mais c'est pas fini, hein, du coup. Pardon. Du coup, est-ce que vous avez des attentes des personnes avec qui on s'organise ? Ou on s'organise pas?
Oui. Bon, nos attentes, c'est que ces personnes nous soutiennent quand on a nos manifestations et ça va de vice-versa aussi. Quand ils ont aussi, parce qu'il ne faudrait pas demander du café à quelqu'un en retour, ne pas pouvoir lui donner. Voilà, si on demande à ce qu'on nous soutienne, il faudrait qu'on soit aussi dans la capacité aussi de soutenir. Voilà, donc ce qu'on demande, c'est de nous soutenir quand on a nos événements, nos manifestations, nos rassemblements. Tout ce qu'on demande, c'est sont des soutiens. Voilà. Et maintenant même, prochainement, on a un rendez-vous à la DS2N parce qu'il y a des jeunes encore qui ne sont pas encore scolarisés. Ils nous avaient donné un rendez-vous le 5 février. Voilà, donc on a ce rendez-vous. Et pendant ce rendez-vous, on veut faire un rassemblement devant le bureau. Et puis, bon, ceux qui seront en haut vont discuter avec les personnes qui seront là-bas. Et puis, les autres seront en bas pour essayer de les faire chier un peu parce qu'on voit que c'est que par ça que ça peut marcher. Voilà, nos attentes, c'est un peu ça.
Il y a un horaire pour le 5 février, une heure ?
Oui, c'est à 13h.
13h.
Devant la DSDN.
Ok, merci.
En fait, moi, je vais être hyper pessimiste, donc je sais pas s'il y a quelqu'un qui veut parler avant moi. Enfin, je vais détruire des rêves. Mais ouais, de fou, parce qu'en vrai, moi, j'ai zéro attente, hein, des blancs, c'est comment, là ? À quel moment on a des attentes maintenant ?
En fait, si, bien sûr, en fait, on a des attentes. Qu'est-ce que tu dis ? On se dit souvent, et on part souvent du postulat, que c'est aux premiers concernés de s'organiser. Ok, certes. Donc, on se dit... À partir de là, ce qu'on attend des alliés, c'est qu'ils prennent une place d'alliés, en fait. Et donc, soutenir la parole de ces premiers concernés, mais aussi investir physiquement, psychologiquement, son privilège, enfin, investir plutôt physiquement, matériellement, son privilège, pour prenant cette place d'alliés. Enfin, et du coup, les personnes qui ont des privilèges, doivent comprendre en fait qu'ils ont aussi une responsabilité et ne pas s'en exonérer en fait et s'organiser pour ces luttes là et donc voilà ouais non
ouais oui
ok voilà
et est-ce qu'il y a des rendez-vous un peu qui arrivent?
Ouais, de fou. Donc en fait, tous les 8, on se retrouve, tous les 8 du mois, on se retrouve place Cadena, 18h30, pour dénoncer l'armement des États génocidaires. Et le 30 janvier, il y a un rassemblement pour donc Stop Arming Israël, un rassemblement à Eurolinks à 12h30. Eurolink, c'est 14 rue Louis le Prince. 14 rue Louis le Prince. 13e. Voilà.
Et Eurolink, c'est une usine qui fabrique des maillons de chaîne qu'on a retrouvés pendant le massacre de la farine à Gaza. Et donc, ces maillons permettent en fait une augmentation significative du nombre de balles par seconde. Et du coup, sachez qu'à Marseille, dans le 13e arrondissement, il y a une usine qui fabrique de la mort et qui est exportée dans un pays qui réalise actuellement un génocide. Donc on vous attend nombreux le 30 janvier à 12h30 pour réclamer auprès du directeur de Rawlings un communiqué clair venant signifier qu'il a arrêté tout commerce avec l'État d'Israël. C'est un peu ce qu'on demande.
Et est-ce que vous avez un moyen de contact, Binkadi? Si on veut vous contacter, on passe par quel moyen?
Bon, on a notre compte Instagram qui est là, collectif-binkadi-marseille. Binkadi, c'est B-I-N-K-A-D-I.
Okay.
Et puis aussi, on fait les réunions à Châtreux, à la base. Le lieu s'appelle là-bas, chaque dimanche, entre nous les jeunes et puis... Chaque dernier dimanche du mois, on a notre assemblée générale qui s'est faite au rue 29 et boulevard Longchamp.
Ok.
On a aussi le grain qui est à Droumel, 10 rue Dib et Barthélémy. On fait aussi des réunions là-bas. Et puis, là-bas même, on peut dire c'est notre QG. Voilà, on se raconte là-bas. Là-bas est ouvert du mardi au vendredi. Voilà, ceux qui ne vont pas à l'école jusqu'à présent se rendent là-bas tous les jours du mardi au vendredi pour passer la journée et après rentrer.
Trop bien. Eh ben Rachida, vas-y.
Pour finir en beauté.
Pardon,
Oui, ouais. Vas-y Moussa.
Je voulais ajouter aussi que bon, bientôt, on va faire un campement parce qu'on a des jeunes encore qui sont sortis de l'ABDA 13 qui dorment au dehors. Donc bientôt, on va faire un campement à réformer où il y a le girafe là.
Ok, au kiosque. Il n'y a pas encore de date?
Non, pas encore. Okay. Mais on fera la communiquer sur l'Instagram.
Ok, trop bien.
Déjà, je aimerais bien faire la promotion en vrai de cet événement. Je pense que ça peut être pas mal déjà. Parce que demain, en fait, il y a un atelier en homicité de race. Donc genre, entre nous les gars, c'est le moment de parler de bitch. Et c'est du coup, je crois, au centre LGBT, c'est ça?
Ouais.
J'ai pas l'adresse, mais normalement, c'est sur le compte Instagram de Marseille 8 mars. C'est ça?
Oui.
Ok. Et pour ce qui est de nous, alors... on conseille plutôt d'aller regarder ce qu'on poste sur Instagram, du coup Intifada France. Évidemment, nous, on est hyper chaud pour recruter des personnes qui sont chaudes pour la radicalité. C'est pas du tout français ce que j'ai dit, mais vous avez capté. Toutes les personnes qui sont racisées et du coup qui sont pas blanches, c'est ok. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire.
Pour répondre, bah non, j'ai pas trop envie de répondre à la question, ou sinon peut-être qu'on y a répondu en particulier. En tout cas, j'étais assez d'accord avec ce qui a été dit, c'est-à-dire qu'effectivement, la question des alliances et des alliés, elle doit être située et elle doit être aussi questionnée. On a besoin de ressources physiques comme de la présence. On a besoin stratégiquement aussi d'avoir des formes d'organisation où les personnes qui seraient plus facilement agressées par la police du coup serait plutôt en sécurité. Donc il y a aussi dans quelle mesure on peut s'organiser et quelles sont nos limites. Je dirais aussi des formes matérielles et financières d'organisation, qui soient ici localement pour des personnes en lutte, pour des personnes qui souhaitent accéder à leurs droits ou même à l'international. Et puis aussi réaliser des espaces de réflexion, peut-être pour les personnes privilégiées, sur c'est quoi mon privilège, quelles sont mes responsabilités, comment je peux m'engager, parce que j'ai envie de m'engager dans une lutte plus grande que moi-même. Donc ça serait intéressant. Et je remercie aussi du coup ce week-end d'avoir permis, en tout cas des personnes ici qui ont permis, et de toute l'organisation, qui ont permis cet espace d'échange. Voilà.
Eh ben, merci beaucoup merci. Tout le monde. Et au revoir.
Au revoir, parce que j'ai écrit un truc. Il n'y a rien de spontané. Hein. Donc, merci encore à tout le monde pour votre écoute et pour ce temps d'échange ici. Merci. À la suite du plateau radio, il y aura un atelier autour de la grève féministe à la DAR. Et ensuite, un temps convivial avec un repas. Donc demain, on se retrouve au centre LGBT et nous retrouverons de 11h à 13h pour un arpentage autour du livre Manifeste pour une démocratie déviante, Amour queer face au fascisme. Cet atelier sera animé par l'autrice Costanza Spina. Et à 15h30, toujours au centre LGBT, nous vous proposons un atelier de discussion autour des oppressions. Ce temps se fera en mixité choisie, personnes racisées, comme tu l'as dit. Donc c'est Siem Benmina, autrice du livre Lettres suspendues et cofondatrice de la revue Comme nous brûlons, qui animera cet atelier avec moi. Et pour ce qui est des informations sur la suite de la campagne, n'hésitez pas à rester connecté et à vous abonner à tous les collectifs qui sont ici, donc Collectif Binkadi, Intifada, Marseille 8 mars, Riposte Antifa, Afrofem, Femmes contre l'armement, Stop Arming Israël. Voilà, et on espère vous voir nombreux pour de futures actions. Inch'Allah, on peut le dire ou pas? Inch'Allah.
Inch'Allah.
Merci.